Voilà, bonjour à chacun. Vous avez beaucoup de foi ce matin. Et ouais, vous venez adorer un Dieu qu'on ne voit pas. Vous venez écouter quelqu'un qui va vous prêcher la parole. Alors la parole, on sait ce qu'elle est, mais celui qui prêche, on ne le connaît pas trop, hein, quand même, un petit peu. Et toute notre vie est faite de foi. On est appelé à suivre un Dieu. Nous, on aime bien ce qu'on connaît bien. Et puis, Dieu nous emmène toujours sur des chemins un petit peu inconnus. Et puis, sur ces chemins-là, on découvre que ce Dieu est encore plus grand que ce qu'on imaginait et qu'il a pu non seulement nous y pousser, nous y tirer, nous emmener avec lui, mais pourvoir à tout ce dont on avait besoin. Alors, on va juste repasser, si la vidéo est là, un court film de 3 minutes qui rappelle ce que c'est que Portes Ouvertes. Parce qu'il y a plus de 60 ans, on va bientôt pouvoir dire 65 ans, Dieu a appelé un homme à commencer une œuvre sur un terrain totalement inconnu où personne n'était allé avant, à tel point que quand il rentrait de ses voyages derrière les rideaux de fer, les journaux s'arrachaient ses témoignages parce qu'au moins il y avait quelqu'un qui pouvait nous dire ce qui se passait de l'autre côté dans ce monde inconnu qu'était l'Union soviétique, etc. Alors, on va regarder. Voilà, frère André qui nous invite à être des personnes ayant du courage, du cran, et puis de fortes convictions. Est-ce que vous croyez qu'on est courageux du verbe naître? Hein? C'est quelque chose qui doit s'acquérir, on est d'accord. J'aimerais vous lire l'histoire ou le message d'un homme, l'apôtre Paul, et on va lire ensemble dans Philippiens 3 à partir du verset 7. Paul, quand il écrit aux Philippiens, il est au terme de sa vie, pratiquement. Pour autant qu'on soit bien renseigné, il est en prison à Rome. Et voilà ce qu'il écrit aux Philippiens, je lis depuis Philippiens 3, 7. On y reviendra après. Les qualités qui pour moi étaient des gains, donc tout ce que j'avais accumulé, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur ce point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix. Je vous ai déjà souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à tous soumettre à son autorité jusqu'ici. Donc, comme vous l'avez vu, je suis là au nom de Portes Ouvertes qui consolide l'Église persécutée, qui prépare l'Église des régions instables et encore pas plus loin, vieux que vendredi, on reçoit un appel de Syrie, un pasteur qui était venu ici invité pour une journée de Portes Ouvertes et qui nous retourne l'invitation. J'aurais besoin que ta collègue vienne pour une rencontre de dames. Quand ça? En octobre. Oh mon Dieu, nos agendas. Il dit, ben, il ne reste que ce week-end. Ce sera parfait. En 24 heures, tout est organisé. Vous savez, ils sont comme ça. Nous, on n'arrive pas à organiser des choses moins d'une année à l'avance. Hein. Donc, cette collègue va aller pour fortifier l'Église qui est en risque d'être persécutée. Et puis, la troisième chose qu'on fait, c'est ce que je fais ce matin, c'est vous informer, vous mobiliser, vous rendre attentif à cette Église qu'on a un peu tendance à oublier, sauf quand il y a des nouvelles mauvaises nouvelles dans les médias. Puis là, on se dit, oh, les pauvres malheureux. Et puis on oublie. Ça fait 2000 ans que Jésus-Christ est venu. 2000 ans qu'il a fondé son Église. 2000 ans que le Nouveau Testament nous invite à être courageux, comme nous invite Frère André, à avoir du cran. Et depuis 2000 ans, il y a des gens qui ont cru à ce message et qui continuent de croire à ce message, qui ont cru avec enthousiasme. Je vous remercie pour l'enthousiasme que vous avez mis par vos chants ce matin. Et puis depuis 2000 ans, Jésus-Christ lui-même, tous ceux qui croient à ce message, passent par des moments parfois difficile. Jésus-Christ, au moment de passer par la croix dans le jardin de Gethsémané, il devrait pouvoir compter sur ses disciples, il a besoin de leur aide, ils sont en train de dormir. Et là, lui revient une parole qu'il a lui-même prononcée, disant « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » C'est Matthieu 20, 28, ça. Et puis Jésus passe par la croix. Et puis il se relève d'entre les morts. Il ressuscite. Et il envoie ses disciples. Et il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous ne croyez pas qu'on oublie parfois ce tout pouvoir? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et puis les années avancent. Et puis Paul se devient le champion de ceux qui persécutent l'Église. Et il reçoit des lettres pour aller arrêter ceux qui sont à Damas. Justement là où va aller ma collègue dans quelques semaines. Et puis sur ce chemin de Damas, on connaît tous cette histoire, il se fait arrêter. Il devient aveugle. Il rentre à Damas, aveugle, et Dieu lui envoie un de ses disciples, Ananias. Et là, il y a cette discussion grandiose entre Dieu et Ananias. J'aimerais que tu ailles prier pour Paul. Et Ananias de dire à Dieu, non mais on ne doit pas parler du même. Hein? T'es pas bien renseigné, Seigneur. Tu sais quelle lettre il a amenée avec lui? Tu sais ce qu'il veut nous faire? Tu veux que moi j'aille prier pour lui? Et le Seigneur lui dit, vas-y, acte 9, 15. Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Et là, on commence d'entrer dans le cœur de ce que j'aimerais vous dire ce matin. Dieu nous a donné à tous ceux qui croient, le message, la mission d'aller et de faire des disciples et de les enseigner. Ça, c'est un appel commun, général, à chacun d'entre nous. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que pour chacun d'entre nous, Dieu a un appel spécifique en plus. Et l'appel de Paul, c'est de faire connaître le nom de Dieu, le nom de Jésus, aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Et Dieu ajoute dans cet envoi à Ananias, lui, Ananias, cette fois, pour ce moment-là, il reçoit comme appel bien particulier d'aller prier pour Paul. Il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Donc, avec cet appel de Paul d'annoncer au roi, aux Israélites, il y a encore un appel particulier, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ça revient à dire que ce par quoi Paul a dû passer n'était pas forcément la vocation de tous les chrétiens de son époque. C'était son appel particulier. Certains, on pourrait être un peu revanchard, puis on pourrait se dire, ah ben, il a tellement persécuté l'Église, maintenant, allez, blanc. Il en prend pour son grade. Hein. Et je ne serais pas étonné de découvrir, on ne sait jamais de quoi Paul parle, mais quand il parle de cette écharpe dans la chair, c'est que chaque fois qu'il a dû souffrir à cause du nom du Christ, revient ce que lui-même avait fait souffrir les chrétiens auparavant et dont il n'arrivera jamais vraiment à se débarrasser jusqu'à la fin de sa vie. Bien sûr qu'il est pardonné, mais ça revient à chaque fois qu'il fait souffrir, qu'il souffre à cause du nom de Christ, lui revient en mémoire tous ceux qu'il a fait souffrir auparavant. Donc Paul reçoit un appel particulier. Et on va maintenant attaquer ce texte que nous avons lu ensemble. La première chose que Paul dit dans ces Philippiens 3, je vais retrouver mon texte qui est en plus grand. Il a commencé par faire la liste de toutes les qualités dont il pouvait se prévaloir. Vous savez tout ce qu'on met sur un CV, hein, quand on veut se faire embaucher. J'ai fait telle école, j'ai tel titre, j'ai tant d'expériences pratiques, etc. Eh bien, Paul dit, toutes ces qualités qui étaient pour moi des gains, hein, tout ce dont je pouvais me prévaloir, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Alors, je ne suis pas en train de dire aux jeunes, il ne faut pas aller à l'école, il n'y a pas besoin de titre, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tout ce dont on pourrait se glorifier, des choses d'ailleurs qu'on a reçues ou qu'on a acquis ou qu'on a acquis durement, eh bien Paul dit, tout cela je le considère comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Si tous ces titres dont je peux me prévaloir, toute cette connaissance que j'ai dans ma tête ou ailleurs, m'empêche de connaître Jésus-Christ, alors je les considère comme une perte. Paul va même plus loin. Le terme qu'il utilise là, certains le traduisent par ordure. En fait, c'est ce qu'on laisse derrière soi aux toilettes. Quand on va aux toilettes, on se dépêche de tirer la chasse, c'est pas vrai? Eh bien, c'est exactement ce que fait Paul avec sa science. Et il dit, tout ce que je peux perdre ici, c'est pour gagner ce qui est d'en haut. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection, Philippiens 3, 10. Et il ajoute, et la communion à ses souffrances. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection, Paul l'a déjà expérimenté dans son premier voyage missionnaire. Vous vous souvenez, hein ? Il part, il traverse Chypre. Aujourd'hui, on fait ça en voiture parce qu'on atterrit à un bout, puis comme par hasard, l'hôtel est à l'autre bout. Mais lui, il l'a fait à pied, ça lui a pris au moins 15 jours. Il arrive à Paphos. Là, toute la ville se convertit. Et puis, il repart en Turquie, deuxième étape. Et là, Acte 14 nous dit que il le traîne en dehors de la ville, il le lapide et il le laisse pour mort. Et c'est des gens, croyez-moi, ils savaient ce qu'ils faisaient. Luc, qui est le médecin, qui l'accompagne, il n'a pas dit il est mort, parce que lui sait qu'il n'est pas mort. Mais il a dit il le laisse pour mort. Donc tous ceux qui sont là sont convaincus qu'il est mort. Et Paul se relève. Et il rentre dans la ville. Et le lendemain, il va faire 40 kilomètres pour aller à la ville suivante. Le bruit avait déjà couru que Paul était mort. Et voilà que Paul arrive. Et il leur annonce l'évangile. Entre parenthèses, j'aimerais vous demander, vous en connaissez beaucoup de lapidés qui font 40 kilomètres le lendemain de leur lapidation ? Paul est devenu une image de la résurrection. J'aimerais vous laisser encore ça en mémoire. Nous, on lit la Bible en tant que chrétiens. Ouais, j'espère. Et par cette Bible, Dieu se fait connaître à nous. Mais pour tous ceux qui ne sont pas des chrétiens fervents, pour tous ceux qui ne lisent pas la Bible, nous devenons, et c'est la Bible qui le dit, je n'invente rien, nous devenons une lettre ouverte de Christ. Nous devenons une Bible pour eux. D'accord ? Et c'est exactement ceux qui n'avaient pas encore lu la Bible, qui n'existaient déjà pas, parce que le Nouveau Testament n'existait pas encore à ce moment-là, qui n'avaient pas appris sur la résurrection de Jésus, en voyant Paul lapidé se relever d'entre les morts, eh bien, il devient une lettre ouverte pour ces gens. Ils comprennent ce que c'est que la résurrection. Et Paul dit, en écrivant aux Philippiens, « Je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Et c'est bien ça qui se passe, c'est bien ça le témoignage que je vous apporte aujourd'hui. C'est qu'il y a des églises qui sont laissées pour mortes. Et qui donne la vie autour d'elle. L'ennemi aimerait tout faire pour supprimer le christianisme, supprimer les chrétiens, ou en tout cas les faire taire. Et voilà que, eux-mêmes, dans le plus profond de leur déchéance, dans le plus profond de leur souffrance, ils sont encore des témoins de Jésus-Christ. Et ce que ce Paul expérimenté ajoute encore à ses Philippiens, c'est que toute sa connaissance, on a déjà vu qu'il la considère comme des pertes, mais toutes ses expériences, il les laisse de côté. Il dit, je suis toujours en chemin. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, je me porte vers ce qui est devant. Donc l'apôtre expérimenté n'arrive pas en disant « Écoutez-moi, moi qui ai déjà tout expérimenté », dit tout cela, je le laisse derrière. Et je cours. Je suis toujours en chemin. Et puis, puis là vient une toute petite pique. Verset 16. Là où nous en sommes, frères et sœurs, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Vivre l'Évangile, c'est le vivre ensemble. Et puis quand même, il y a le tréfonds de Paul qui ressort. Verset 15. Si vous êtes d'un autre avis sur ce point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il y avait un petit peu de la bisbille. La seule chose sur laquelle ils étaient d'accord, c'est de dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Et Paul dit, eh bien, on y va quand même ensemble. Et puis, si vous êtes d'un autre avis, ça veut dire, c'est moi qui ai raison, vous le verrez bien à la fin. Dieu vous éclairera. Mais ça ne fait rien, on y va ensemble. Et il nous invite à le choisir, Paul, comme modèle. Parce qu'il dit avec tristesse, il y en a qui sont attachés aux choses d'en bas, il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Il n'y a que les choses terrestres qui comptent. Quelle voiture ils ont ? Plutôt que maintenant, c'est plus de bon ton. Quelle voiture ils n'ont pas ? Et puis si, et puis ça, et puis qu'est-ce qu'on a mangé ? Et puis... Bien sûr, on apprécie un bon repas, on apprécie d'avoir un véhicule qui nous amène juste devant, là, avec que je puisse décharger facilement les caisses de livres en bas. Mais Paul dit, c'est pas ça qui est l'important. C'est pas ça qui me motive. Et il rappelle que nous sommes citoyens. Alors bien sûr, j'apprécie d'avoir un passeport suisse, ça m'ouvre plein de portes pour aller dans des pays où d'autres ne sont pas tolérés. Quand on part dans un pays étranger, on fait bien attention d'avoir avec soi son visa, surtout s'il n'a pas été mis dans le passeport, mais s'il est sur une feuille, c'est pareil. J'aimerais qu'on fasse tous bien attention de toujours bien avoir notre visa pour le ciel. On est d'accord ? Parce que c'est ça notre destination finale. Attachez-vous aux choses d'en haut, dit Paul. Ça revient à dire, si on n'est pas attaché aux choses d'en bas, qu'on doit presque en arriver à se considérer comme des sans-papiers pour ici en bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Voyez un petit peu comment doivent parfois vivre les sans-papiers. Mais parfois, il y a des frères et sœurs, ils ont pourtant bien le passeport, mais parce qu'ils sont devenus chrétiens dans le pays où ils habitent, eh bien, ils sont comme des sans-papiers, des citoyens de seconde zone, des gens sans cesse pourchassés. Et j'aimerais vous inviter avec moi à venir en Inde où on va rencontrer quelques personnes qui vivent des situations difficiles parce qu'ils suivent le Christ. C'est des Paul d'aujourd'hui qui ont leurs appels d'aujourd'hui. Et j'aimerais en particulier vous parler d'un pasteur que j'ai rencontré, le pasteur Ramesh Krishnaraj, il est né dans une famille hindoue. Sa maman a commencé de fréquenter une église. Alors, il faut bien se rendre compte ce que c'est qu'une église. Une église, en tout cas dans les villages, peut-être que dans les villes, il y a quelques grandes églises bien établies depuis plus de 100 ans qui ont des bâtiments aussi gros que le vôtre. Mais la plupart des églises, là où l'évangile grandit maintenant, c'est dans les villages et ils se réunissent là où ils peuvent, là où ils ont de quoi se réunir. Donc, sa maman fréquente une église depuis quelque temps, et voilà que le jeune Ramesh, 13 ans, 14 ans, tombe sérieusement malade. Alors le pasteur, l'évangéliste, vient à la maison, puis il prie pour lui. Et voilà qu'il est miraculeusement guéri. Là où la médecine n'arrivait rien à faire, il est complètement rétabli. Et pendant 2 ans, cet évangéliste va continuer de venir régulièrement à la maison et de challenger Ramesh en disant, mais si Dieu t'a guéri, c'est qu'il a un plan pour ta vie. Et il ne veut rien en savoir. Non, 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 moi je suis hindou, ça me va très bien. Et puis il se convertit finalement après 2 ans. Et il donne sa vie à Christ. Et très peu de temps après, il entend que Dieu l'appelle à servir Sanjipati. Ça ne vous dit rien, ce nom de Sanjipati, hein ? Ben lui non plus. Vous savez, l'Inde, c'est gros. Est-ce que c'est une ethnie ? Il y a juste 2000 langues en Inde. Nous, on se plaint parfois avec nos 4 langues nationales qu'on réduit à 3, puis encore à 2. Les Italiens, les italophones n'ont qu'à se débrouiller à parler le français ou l'allemand. Eux, ils en ont 2000 de langues. Alors, est-ce que c'est une ethnie qui parle une langue qu'on ne connaît pas ? Est-ce que c'est une région ? Est-ce que c'est un village ? Je ne sais pas. Mais il garde ça dans la tête. Et puis, il continue ses études. Et puis, il fait des études brillantes à l'université, même un post-grade, hein, un doctorat. Et voilà qu'il termine son doctorat. Il a quasi son papier en poche, ce sera l'affaire d'une semaine encore. Il rentre chez lui en autobus parce qu'il a quelques jours de vacances. Et puis l'autobus a une panne, c'est la seule photo que j'ai trouvée pour illustrer une panne d'autobus. C'était une panne plus sérieuse que ça parce qu'on demande à tout le monde de sortir du bus parce qu'il faut attendre plusieurs heures jusqu'à ce qu'un bus de remplacement vienne. Et tout le monde va cuire dans cet autobus surchauffé par le soleil. Un peu comme ici ce matin. Donc tout le monde sort du bus et voilà qu'il est en face d'un panneau d'entrée de localité où c'est écrit plus fort Sanjipati. Et il comprend que Dieu l'appelle à servir là. Alors, le contrat pour aller sur une plateforme pétrolière avec 100 000 roupies par mois, ça, il le déchire. Et il commence à annoncer l'évangile dans ce village. Et puis, au bout d'un an, ses parents l'informent ou l'invitent ou l'obligent à rentrer à la maison où ils ont choisi pour lui une fiancée. C'est comme ça que ça se passe encore dans bien des familles en Inde. Donc, ils se rencontrent 2 jours avant le mariage, pendant environ 2 heures. Lui n'a rien à dire, c'est les parents qui ont choisi. Elle, elle peut dire si oui ou si non. Famille hindoue, hein, je vous rappelle. Lui est chrétien, la maman est chrétienne en secret. Et voilà qu'elle dit oui, et on découvre qu'elle est aussi chrétienne en secret. Donc elle part vivre avec lui à Sanjipati, et puis... Elle est enceinte de leur premier enfant, enceinte de 6 mois, quand des excités hindous la prennent à partie. Les tabacs, ça coûte part de fer, hein, ils les font chuter du vélo, parce que là-bas, c'est comme ça, c'est le vélo familial, hein, on a un vélo pour toute la famille. Quand les pneus ne suffisent plus, on achète alors une moto, comme ça on peut mettre, j'en ai vu, jusqu'à 7, hein, le père, la mère et 5 enfants derrière, enfin 1 ou 2 devant, puis 3 derrière. Mais là, c'est encore le vélo, ils les font chuter, ils les tabassent à coups de barre de fer. Et elle perd le bébé de 6 mois, là, sur la rue. Elle lui dit, non, c'est trop dur, on s'en va. Elle, elle est encore plus ferme que lui. Il n'y a rien à faire. Tu as un appel pour ici, on reste. Les années passent, ils ont un enfant, 2 enfants, et on arrive en février de l'année dernière, non, début mars de l'année dernière, et voilà qu'il y a un important dirigeant hindou de la localité qui est décédé. Donc c'est la Mons Baskrin, enfin le cortège très bruyant. Ramesh s'enferme dans son... C'est un local, essayez de vous imaginer, ça fait le quart de cette salle, non compris des escaliers. C'est une seule pièce, c'est leur appartement et c'est leur église. Et ils réussissent difficilement, hein, il a renoncé à un salaire de 100 000 roupies par mois, et ils réussissent difficilement de réunir les 4 000 roupies pour vivre, pour payer ce local et pour vivre par mois. Donc c'est une vie, ils se sont engagés à une vie difficile, de pauvreté, comme tous les gens de ce village. Donc il y a cet important cortège qui passe, très bruyant, et lui s'enferme chez lui, met les écouteurs sur les oreilles, écoute de la louange, des messages, j'en sais rien. Et tout d'un coup, mais ça sent le brûler ici, et il se retourne, et voilà leur habitation qui est en feu, et il est à l'intérieur. Et il se précipite à l'extérieur, je pense qu'il y a un, voilà, il y a un pointeur là, et vous voyez le linteau là, au moment où il a poussé le portail pour sortir, eh bien le linteau lui est tombé sur les épaules et l'a brûlé au deuxième degré. Et il se retrouve à l'hôpital. Et c'est là que nous sommes entrés en contact avec lui parce qu'il y a eu des messages WhatsApp qui ont été sur des réseaux qu'on suit. Il a besoin d'aide et nos collègues de Portes Ouvertes locales se sont donnés comme mission, si quelqu'un a besoin d'aide, quelqu'un passe par des difficultés de ce genre-là, on lui rend visite dans la semaine. En plus de tout le reste de ce qu'on a à faire. Et donc, un collègue est allé lui rendre visite. Il lui a demandé, c'est quoi ton besoin? Alors, il s'attendait à ce qu'il lui parle de la moto qui était maintenant en leasing, et puis qui, voilà, elle est brûlée, il faut continuer de payer le leasing ou d'autres choses. Et sa simple demande, ça a été, mais ils ont brûlé le local, où est-ce qu'on va se réunir dimanche prochain? Ça, c'est un témoignage de ce qui se passe en Inde. L'Inde qui se trouve au 11e rang de l'église, au 10e rang, pardon, cette année. 11e, c'était l'année passée. Maintenant, c'est 10e rang des églises les plus persécutées. Et vous avez vu qu'au mois d'avril-mai, il y a eu un processus de réélection qui a été gagné haut la main par le parti BJP au pouvoir. Et depuis, les choses sont encore en train d'empirer, si c'était possible. Donc on voit comment cette persécution a augmenté. Donc c'est en 2014, la première fois que le président Modi a été élu, et vous voyez comme la persécution continue d'augmenter. Et donc cette persécution, elle a trois sources. D'une part, c'est ces politiques de loi anti-conversion. Hein. Donc on peut toujours se convertir à l'hindouisme, mais quitter l'hindouisme est interdit. Et on vous force à y revenir dans des cérémonies de reconversion. Et cette couche, si vous voulez, vous avez le BJP, c'est le parti politique, mais vous avez l'idéologie, qui est assez proche de l'idéologie nazie d'ailleurs, qui est en dessous de ce parti religieux RSS. Et ils organisent de grandes séances pour reconvertir les gens à l'hindouisme. Et puis, comme ils ne peuvent pas être partout, eh bien, ils financent. Et l'histoire du pasteur Ramesh, qui est arrivé des dizaines de fois l'année passée, comment ça se passe? C'est ce RSS qui dit à un jeune, enfin à tous ceux qui se proposent, si tu brûles une église, on te donne 4000 roupies. Donc, le salaire minimum d'un mois. On te donne 4000 roupies pour les préparatifs, pour acheter l'essence, etc. Bon, voilà. Et une fois que tu l'as fait, tu postes une photo. Et c'est comme ça que je pouvais vous poster la photo de l'église en feu où Ramesh est encore dedans. Parce que ce n'est pas lui qui a pris la photo. On la trouve sur les réseaux sociaux de ce parti RSS, qu'on suit aussi pour savoir ce qui se passe. Et quand il a posté cette photo, ça veut dire qu'il touche en compensation 45 000 roupies. Ça veut dire un an de salaire, hein, 4 000 avant exécution, 45 000 après. Ça, c'est les tarifs actuels, si je suis bien informé. Donc, ces gens ont besoin d'aide. On aide autant que faire se peut à une autosubsistance, à parce qu'ils doivent recevoir chaque mois un salaire de notre part. Et je pense en particulier à ce pasteur, voyez cette échoppe. Je ne peux pas vous montrer la photo du pasteur, mais c'est la femme et leur enfant. J'ai pris ça quand on était dans un véhicule ensemble. Et voilà, ils étaient dans un village, et puis on a découvert qu'ils étaient chrétiens. Alors, on le boycotte, puis il n'y a plus de revenus. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a financé la construction, c'est la station Agip sur l'autoroute du coin, ça veut dire c'est une route directe, c'est entre deux villages, c'est cela, et puis les gens s'arrêtent pour acheter à manger, à boire, ils ne savent pas qui c'est, voilà. Et ça, ça lui perd. Donc, il a fallu financer la construction des shops, il a fallu financer le premier achat lendemain. Et après, c'est une affaire qui roule et ça permet au pasteur, en dehors de ça, d'avoir son revenu et puis d'exercer son activité pastorale. Ou si je pense, on va quitter rapidement l'Inde. Si je vous le dis le nom, ça y est, j'ai un blanc. La pakistanaise, Asia Bibi, voilà. Vous vous souvenez de quoi on l'accusait? Pourquoi il l'avait condamné à mort, vous vous souvenez? Hein? Elle avait bu de l'eau. Et parce qu'elle est impure, elle avait contaminé l'eau. Eh bien, ils font la même chose en Inde. Dès qu'ils découvrent que quelqu'un est chrétien dans un village, ils l'empêchent d'avoir accès au puits. Vous tenez combien de temps sans eau? Pas longtemps, hein? Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Au milieu, entre plusieurs villages, nous avons acquis un terrain où il y a un puits. Mais non seulement ça, il y a un puits, mais il y a toute une ferme de production. Vous voyez ces sacs jaunes, là, et blancs, les plus petits? C'est du compost bio. Pour faire du compost bio, il faut mettre de la matière et puis il faut l'arroser régulièrement pendant 5-6 semaines. Puis ensuite, le laisser sécher et le mettre en sac. Donc, il fallait le puits pour ça. Ça justifie auprès des autorités d'avoir un puits. Les gens viennent tous les deux jours pour soigner, enfin, pour s'occuper de ce compost qui se vend très cher parce que c'est du bio en ville. Et puis, vous voyez tous ces gens-là. C'est tous des gens à qui on a restreint l'accès à l'eau, tous des chrétiens. Et donc, ils viennent tous les deux jours pour s'occuper de ça. Et puis, eh bien, après s'être occupé de ça, ben, le local de stockage et les sacs servent de lieu de réunion et de lieu où s'asseoir. Pas compliqué, hein? Et puis, tous les deux jours, il y a une fois un culte, une fois une réunion de prière, une fois une étude biblique. Et puis le soir, eh bien, ils repartent avec des bidons d'eau sur l'épaule pour avoir de quoi tenir les deux prochains jours. Je peux vous assurer, ils sont très assidus à l'église. Ah, c'est une mauvaise plaisanterie. Et ils sont autosuffisants. Ça leur permet de vivre et ça leur permet de pourvoir à leurs besoins. Alors voilà tous ces gens qu'on rencontre en Inde. Est-ce qu'ils sont découragés? Est-ce qu'ils sont tristes de ce qui est arrivé? Bien sûr qu'ils ont des expériences douloureuses à nous partager, bien sûr. Mais ils se réjouissent de voir l'Évangile avancer, de voir l'Église grandir. Et si on parle de 30 millions de nouveaux chrétiens en Inde ces 10 dernières années, c'est pas une grande réunion comme à la Pentecôte où il y en a 30 millions qui sont venus, puis qui ont levé la main, puis qui se sont fait baptiser par Pierre et les apôtres en sortant. C'est du 1-1. J'ai oublié de vous dire, quand le pasteur Ramesh et sa femme ont été tabassés, en une année, 2 ans, ils avaient réussi d'avoir 7 nouveaux convertis dans l'église. Ils sont tous partis. Qu'il a dit, si votre Dieu Jésus là n'est pas capable de protéger notre pasteur, pourquoi est-ce qu'il nous protégerait, nous? Mais entre l'événement où ils ont perdu le fœtus sur la rue et puis quand l'église a été brûlée, eh bien, il y a une trentaine de nouveaux qui sont revenus en se disant, mais quand même, ces gens-là, s'ils tiennent le coup, s'ils restent, c'est qu'ils doivent avoir quelque chose d'important à dire. On va aller écouter ce qu'ils disent. Donc 30 millions de nouveaux chrétiens en Inde, c'est tous des gens qui ont été gagnés un par un, avec la persévérance. Et je peux vous assurer, il y a beaucoup d'églises, de villages, qui ne dépassent pas 30 personnes. Il y a un autre pasteur à qui il est arrivé presque la même chose. C'était un mois auparavant. Ils ont brûlé son église à lui aussi. Elle était détruite. Et puis, il se disait, malheur, février, l'église détruite. Où est-ce que je vais tenir le camp pour enfants? Et je termine avec ça. En réaction, les parents, vous savez, quand il y a eu des attentats à Paris, ils ont dit « je suis Paris hein, ». Mais là, ils ne sont pas tous d'accord avec ce qu'ont fait les islamistes. Et alors, par réaction, au lieu qu'il y ait 50 enfants qui allaient au camp, le pasteur a planté juste des tentures, il n'y avait plus de mur, peu importe, il a mis une espèce de toit de toile, et au lieu qu'il y en ait 50, il y en avait 230 le premier jour de ces kids games locaux, et 280 le dernier jour, au lieu de 50. Et quand on sait que la moitié de l'Inde est composée de gens de moins de 15 ans, voilà ce qui nous donne de l'espoir pour l'Inde. Alors, je termine avec ça. Et je vous signale simplement qu'on a cette campagne pour l'Inde. J'ai des signets que je vous remettrai volontiers en bas à la table de librairie. Et puis, si vous ne recevez pas encore ce magazine que vous avez trouvé sur vos chaises, s'il n'y en avait pas sur vos chaises, vous la piquez sur la chaise libre de devant. Et je vous invite simplement, si vous ne recevez pas encore ce magazine, à remplir cette carte et à me la remettre en bas sur la table de librairie. Merci pour votre attention.